Bonsoir, le gouvernement face à l'énigme politique des gilets jaunes. À la une des informés au quatrième jour de la mobilisation, Christophe Castaner parle de dérive totale, de radicalisation d'un mouvement dont personne ne sait s'il va se poursuivre et sous quelle forme. L'un des moteurs du mécontentement qui s'exprime, le ras-le-bol fiscal qui devient une préoccupation majeure des Français. Le sort de Carlos Ghosn à la tête de Renault discuté en ce moment même, en conseil d'administration, au lendemain de son arrestation au Japon, Bruno Le Maire a réclamé la mise en place d'une gouvernance intérimaire. Ça n'a pas traîné, le géant de l'automobile est désormais fragilisé. Le président Emmanuel Macron, lui, s'est octroyé 2 jours chez nos voisins et amis belges. Visite d'État avec accueil royal sur fond de turbulences européennes. La politique nationale n'était jamais très loin. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Marion Mourgue.
Bonsoir.
Journaliste politique au Figaro, partenaire des informés. Avec nous également, bonsoir et bienvenue, Hélène Hamel.
Bonsoir.
Vous êtes associée de l'agence Plaid, spécialisée dans le conseil en communication stratégique. Je crois qu'on aura besoin de vous ce soir. Avec nous également, Thomas Clé. Bonsoir, Thomas.
Bonsoir, Jean.
Bienvenue, un visage des informés, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Et j'accueille ce soir également, bonsoir à vous, Emmanuel Foulon.
Bonsoir.
Vous tombez à pic, hein, Emmanuel, porte-parole de la délégation socialiste belge au Parlement européen et expert en communication et stratégie politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Alors nous l'avons appris en fin d'après-midi, le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête préliminaire sur l'origine de 144 000 euros de dons versés l'année dernière, en 2017, à La République En Marche. France Info, de sources judiciaires, confirme cette information de nos confrères d'Europe 1. Enquête ouverte, c'est la procédure. Après un signalement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il s'agit d'identifier l'origine de ces sommes effectuées, soit par chèque, par virement, par paiement électronique. Thomas Clé, l'enquête confiée à l'Office anti-corruption, c'est une procédure normale, classique?
C'est même une procédure à laquelle on est habitué désormais, puisque la plupart des partis politiques sont soumis à ces enquêtes, et on l'a vu ces derniers temps. C'est très intéressant d'ailleurs, cette enquête qui vient de s'ouvrir, et on peut faire très rapidement 3 commentaires. Le premier commentaire, c'est qu'on parle de 144 000 euros de dons, donc on veut trouver l'origine des dons, et c'est important de trouver l'origine des dons, sur une campagne qui a coûté, je crois, plus de 16,7 millions d'euros.
Donc vous voulez dire que c'est une petite somme,
c'est ce que vous... C'est une petite somme par rapport au montant de la campagne, mais ça ne veut pas dire qu'il faut la négliger. Parce que pourquoi les gens font des dons, et qui sont les gens qui font des dons, c'est important de le savoir et de le mettre en perspective avec ce qui se passe après l'élection. Deuxième commentaire, ceux qui crient depuis un certain nombre de semaines ou de mois au procès politique, à la justice instrumentalisée, quand ils sont concernés par ce type d'enquête, en sont pour leurs frais. C'est-à-dire qu'on voit bien que la justice est indépendante et qu'elle peut poursuivre, y compris le parti au pouvoir. Et puis troisième commentaire, peut-être un peu plus judiciaire, peut-être un peu plus pour les initiés.
C'est le juriste qui s'exprime,
voilà,
allez-y.
On a aussi le droit de faire un commentaire juridique ou judiciaire. Le procureur de la République, qui a lancé l'enquête, c'est une enquête préliminaire, c'est-à-dire sous le contrôle du procureur de la République, il a été nommé la semaine dernière. Et donc, on a reproché au président de la République de choisir un procureur avec lequel il pourrait, le cas échéant, bien s'entendre. Eh bien voilà, il vient de poser un acte d'indépendance qui est très clair, et il lance une enquête préliminaire sur le parti majoritaire. Son nom, c'est Rémi Heitz, et je crois qu'il faut le saluer.
Marion Mourgue, sur cette information.
Si on peut ajouter un commentaire politique, c'est que ça tombe au plus mauvais moment pour le gouvernement, parce que là, c'est quand même la majorité présidentielle, dans un moment où les Français s'interrogent sur la politique qui est menée, donc qui est cet acte, même si c'est pas forcément, on verra ce qu'il en sort de l'enquête. Voilà, la perception n'est pas forcément bonne pour les Français.
Hélène Hamel, vous partagez le point de vue de Marion Mourgue, c'est un mauvais moment, ou c'est une enquête, somme toute, j'allais dire, ordinaire?
C'est une enquête somme toute ordinaire, et je pense qu'il faut quand même attendre de voir quels sont les reproches faits à La République En Marche. En revanche, je rajouterais à ce qu'a dit Marion le fait qu'on est aussi dans un moment de campagne pour La République En Marche, où ils sont en train de remplacer la personne à la tête de La République En Marche. Et c'est vrai que ce genre d'épisode n'est pas très bon dans le cadre d'une campagne.
Oui, Emmanuel Foulon, alors il y en a un qui a déjà sauté sur l'occasion, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon, évoqué implicitement par Thomas Clé tout à l'heure, qui a tweeté « Il y aura des perquisitions à domicile, point d'interrogation, le fichier des adhérents et donateurs sera confisqué aussi, ou bien ce sera ouvertement deux poids, deux mesures ». J'ai la sensation que certains vont être très attentif à ce qui va se passer à l'endroit de cette enquête préliminaire.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, moi, je lui ai répondu en lui demandant si le président de la République allait se filmer sur Instagram pendant la perquisition ou s'il allait bousculer le magistrat.
Vous avez tweeté cela ?
Oui, juste derrière, juste après sa réaction à lui. Parce qu'effectivement, on retire un argument fort de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qui sont aussi dans la tourmente judiciaire par rapport à leur compte de campagne. Alors, oui, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'elle arrive à un mauvais moment, mais en même temps, ça n'arrive jamais vraiment à un bon moment. Mais il faut savoir aussi qu'il y a les élections européennes dans moi, donc c'est pas non plus un bon moment par rapport à ça. Mais enfin, ça montre que la justice ne serait pas une justice de classe, mais ni une justice de parti, mais qu'elle s'appliquerait à tous. Et ça, ceci dit, c'est positif pour tout le monde.
Vu de la Belgique, nous y retournerons en fin d'émission. Chez vous, donc, est-ce que c'est là le signe? Je m'adresse à une sorte d'arbitre relativement neutre, celui que vous êtes à chaque fois que vous venez sur le plateau des informés. Est-ce qu'il s'agit là d'un signe du bon fonctionnement de notre démocratie?
Oui, je pense que la séparation des pouvoirs, c'est essentiel. Et trop souvent, on a des politiques qui commentent la justice ou la justice qui... Enfin, chacun doit rester dans son carcan, chacun doit faire son travail au mieux et c'est comme ça que le citoyen pourra s'y retrouver.
Thomas Clé, l'enseignant, le professeur de droit de la Sorbonne valide ce regard, c'est un bon fonctionnement.
Le regard belge, je le valide sur les questions juridiques, sur les questions de football, on pourrait en reparler.
On a été battu.
Mais bien sûr, je suis consterné par ce que vous venez de lire du tweet de Jean-Luc Mélenchon qui n'en finit pas de s'abaisser dans la hiérarchie de la République.
Il a le droit de réagir aussi.
Oui, mais enfin, il a été tellement ridicule dans cette histoire de perquisition. Il est mis en cause, le MoDem est mis en cause, le Rassemblement National est mis en cause. C'est maintenant le cas de la
République
en marche, pardon. Eh bien, ça montre que la justice avance et que finalement, ces questions de comptabilité, de compte de campagne, elles sont complexes. Elles sont très difficiles à mettre en œuvre. Et pour m'être occupé d'une campagne, je le sais. Donc, on peut faire des erreurs. On n'est pas forcément de mauvaise foi. Que la justice fasse son travail enquête et on verra bien après s'il y a matière à condamnation.
Allez, 20h10 sur France Info. Le premier appel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
En marge de la mobilisation des Gilets jaunes, un motard de 37 ans est mort aujourd'hui des suites de ses blessures dans la Drôme. Hier matin, au niveau d'un blocage filtrant à Porte-les-Valences, il avait remonté une file de voitures par la gauche avant d'être percuté par une camionnette. À La Réunion, frappée elle aussi par la mobilisation des Gilets jaunes, des incidents sont en cours. Interrogée ce soir sur France Info, la députée socialiste de la première circonscription, Erika Baretz, évoque à Saint-Denis des jets de bombes lacrymogènes par les forces de l'ordre et des scènes de vandalisme. Le préfet a instauré à partir d'aujourd'hui un couvre-feu partiel avec une interdiction de déplacement entre 21h et 6h du matin. Le conseil d'administration de Renault a démarré il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant. Il doit statuer sur le sort du PDG du groupe, Carlos Ghosn. Le grand patron est actuellement en garde à vue au Japon pour des soupçons de fraude fiscale dans le pays. De nombreuses boulettes d'hydrocarbures retrouvées aujourd'hui sur des plages de la Côte Vermeille dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs lieux emblématiques du département se retrouvent souillés, dont les plages de la réserve naturelle marine de Banyuls-Cerbère. On ne sait pas encore si cette pollution provient de la collision entre deux bateaux le 7 octobre dernier au large de la Corse.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, nous allons évoquer les gilets jaunes et Thomas Bénèche rappelait à l'instant le décès donc de ce motard en marge d'un barrage de Porte-les-Valences. Y a-t-il une forme de radicalisation du mouvement? Le quatrième jour de mobilisation a été marqué par une série d'escarmouches dans toute la France dont l'ampleur est difficile à estimer. Les forces de l'ordre se sont employées à dégager systématiquement les ronds-points, les sorties d'autoroute. Il y a eu même des affrontements entre des lycéens disant soutenir les gilets jaunes et les forces de l'ordre dans le centre de Perpignan. Alors Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, invité des 4 vérités sur France 2 ce matin, avait dénoncé une dérive totale du mouvement.
Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui, pour l'essentiel, était bon enfant samedi. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes et qui vont dans tous les sens. Et donc, on sent bien que la volonté,
donc,
c'est de bloquer la
France. Donc, il est temps
que ça
cesse, c'est ça que vous êtes venu vous dire ce matin?
Le droit de manifester est un droit essentiel. Mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est aussi de le garantir. Mais nous devons l'encadrer. Et le droit n'est pas celui de bloquer, de ne pas déclarer, de mobiliser des forces de l'ordre, de blesser des forces de l'ordre.
Vous dites
92
ce matin...
policiers, gendarmes ont été blessés, 17 gravement.
Marion Mourgue, quel regard il faut porter désormais sur ce mouvement qui tend à diminuer fortement au quatrième jour? C'est normal, ce sont souvent des gens qui travaillent, c'est compliqué de poursuivre sur le terrain. Il y a, comme le dit le ministre de l'Intérieur, une dérive.
En tout cas, le mouvement diminue, mais il est toujours présent. Et on verra samedi s'il reprend, puisqu'il y a un appel à une plus grande mobilisation. Ce qui est très bizarre, c'est que le gouvernement et encore le président aujourd'hui en Belgique appellent au dialogue pour que justement ce mouvement cesse ou en tout cas se transforme en discussion. Et tous les signaux qui sont envoyés aux manifestants sont des signaux de blocage de discussion. On a entendu le ministre de l'Intérieur, les différents ministres répètent qu'il faut maintenir le cap de la politique, donc ce qui n'invite pas au dialogue. Alors, de fait, il y a une très grande colère. Ouais. Mais s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de signaux de dialogue, ça ne peut que se transformer en mouvement qui se radicalise. Puisqu'il faut quand même envoyer des signaux d'apaisement. Et là, pour l'instant, on nous dit pas de négociation possible, politique qui ne changera pas et les mesures, vous les connaissez.
Alors, Hélène Hamel, est-ce que c'est la bonne stratégie du gouvernement de dramatiser la chose et de parler de dérive, voire de radicalisation?
Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est quand même que le gouvernement est face à une contradiction difficile. Il doit réconcilier les Français sur deux objectifs très contradictoires. Le fait de vouloir avoir de l'essence abordable pour payer l'essence dans sa voiture, pour payer le fuel dans sa chaudière.
C'est quand même une revendication légitime, hein, il faut le rappeler.
Oui, voilà. Oui. Mais et aussi la volonté d'avoir une énergie propre. Hein. C'est un objectif que s'est fixé le gouvernement, ce que une majorité de Français veulent quand même poursuivre. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction entre ces deux objectifs et que le gouvernement a une tâche très difficile aujourd'hui, qui est de réconcilier les Français sur ces deux objectifs. Après, sur la stratégie du gouvernement, il parie sur un essoufflement, c'est ce qu'on peut constater. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Clairement, ils donnent une image de ce mouvement qui est radicalisé, puisque ce que dit Christophe Castaner, c'est que ce sont quand même des gens qui tiennent des propos racistes, xénophobes, qui sont violents. Donc il y a quand même une volonté de les montrer sous un jour très négatif. On sait qu'ils ont réussi à avancer jusqu'à l'Élysée. Donc en fait, ce sont quand même des gens violents. En tout cas, on les montre sous ce jour. Est-ce que le gouvernement a raison de les montrer comme ça et de ne pas forcément répondre et ouvrir le dialogue comme on en parlait, peut-être qu'ils pourront, ils paieront les pots cassés au moment des élections européennes, ouais, surtout, parce que la colère dans les urnes, ça peut être un retour de bâton très très douloureux pour le gouvernement.
Thomas Clay, il faut savoir arrêter un mouvement.
Il faut savoir arrêter une grève. Vous faites référence à la phrase de...
C'était un détournement, oui.
Voilà, de Thorez. En l'occurrence, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de référent. On est face à un objet politique, entre guillemets, non identifié, c'est-à-dire un mouvement spontané qui émerge. On essaie de chercher des racines idéologiques. On les trouve chez Pierre Poujade, on les trouve à l'extrême droite, on les trouve ailleurs, à l'extrême gauche. On ne sait pas très bien, en fait, comment caractériser ce mouvement et on ne sait pas non plus ce que ça va devenir. Alors, effectivement, ce que dit le gouvernement est en train de nous dire, c'est en train de se radicaliser. Il y a 92 blessés chez les forces de l'ordre, il y a maintenant 2 morts. Donc, on essaie de les pousser vers une image de mouvement violent, ce qu'il n'est pas. Mais en même temps, moi, je trouve, alors d'extérieur, hein, ils ont l'air relativement... Ils sont sincères, incontestablement, ils sont sincères. Mais ils sont perdus. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir.
Vous dites ça ce soir, vous.
Oui, ils ne savent pas ce qu'il va devenir. Ils ne savent pas comment faire. Ils disent toujours la même chose. On ira jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout de quoi? On ne sait pas. Effectivement, le gouvernement, non seulement a des propos qui laissent plutôt entendre que la porte est fermée, et d'ailleurs n'a pas pris la main tendue de Laurent Berger, qui proposait une forme de médiation. La CFDT proposait une forme de médiation pour sortir de la crise. Le gouvernement n'a pas saisi cette occasion. C'est étrange. Donc voilà, il y a peut-être une issue exogène, ouais, qui viendra d'extérieur, c'est le prix du baril. Oui. Le prix du baril est en train de baisser, il est à 67$ ce soir, et donc le prix de l'essence va baisser mécaniquement sans que le gouvernement n'y soit pour rien.
Ah, vous voyez peut-être une issue avec, au fond, quelque chose qui viendrait du bout de la planète, hein, des pays producteurs de pétrole.
Voilà, exactement.
Emmanuel Foulon, le chef de l'État Emmanuel Macron en Belgique, on y reviendra tout à l'heure, c'est promis dans la deuxième partie, en déplacement, a promis dialogue et explication. Est-ce que vous voyez, vous, une forme de dialogue et d'explication aujourd'hui avec ces gilets jaunes qui sont un petit peu perdus sur le terrain et un peu livrés à eux-mêmes?
Non, mais il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il est difficile d'avoir un dialogue à partir du moment où vous n'avez pas un leader, vous n'avez pas un groupe qu'on pourrait recevoir, avec lequel on pourrait dialoguer. Donc, fatalement, vous ne pourrez pas avoir d'avancée. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas sûr que si le prix du baril descend, ça va totalement arrêter le mouvement. Peut-être ce mouvement-là, oui, mais la grogne va continuer, va être sous-jacente. Pourquoi? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens se sont rendus compte avec les Gilets jaunes, qu'il y avait deux Frances. Alors que non, ça a déjà commencé avec le traité de Maastricht. On a vu ensuite sous Sarkozy, sous Hollande, qu'il y avait eu un réel clivage entre deux populations en France. C'est le cas encore aujourd'hui, bien accentué encore par Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu l'ISF, parce qu'il y a eu les APL, parce qu'il y a eu les phrases qui ont fait que dans chaque réflexion, finalement, vous avez augmenté le clivage, le pognon de dingue, la rue à traverser, les feignants, les gaulois réfractaires, les gens qui ne sont rien. Nos chefs d'État et nos gouvernements, parce que ce n'est pas typique qu'en France, ont tendance maintenant à plutôt fracturer justement la société civile. Et un des problèmes que je vois aussi, c'est que ces gens ne se sentent pas représentés. Une dernière chose, c'est que il y a plein de revendications. On veut mettre Macron dehors, on veut augmenter, on veut baisser le prix du pétrole, ouais. On a des problèmes avec les soins de santé, on a plein de problèmes. Mais vraiment, le fil conducteur, c'est qu'il y a une inéquité, le sentiment d'inéquité, d'injustice sociale et fiscale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment prégnant dans les revendications.
Pour la petite histoire, Louis Alliot, numéro 2 du Front National sur RMC, BFM TV, ce matin, a pris la défense des Gilets jaunes. On l'écoute et vous réagissez ensuite.
Et on a l'impression que ce gouvernement est sourd, et la seule chose qu'il manie, d'ailleurs avec les braves gens, c'est le bâton. Et là, M. Castaner prend une responsabilité historique. S'il y a des violences, elles doivent être évidemment punies. Mais il y a une tentative du gouvernement de diaboliser ce mouvement.
Alors Marion Mourgue, il y a quelque chose d'ironique à entendre le Rassemblement National parler de diabolisation, en fait. Hein.
Oui, bah là, ils ont une fenêtre de tir, ils l'utilisent. Par contre, il utilise le mot « sourd » et les principaux opposants de La République En Marche mettent ça en avant. Et il est vrai que le gouvernement, on a l'impression qu'il n'entend pas, qu'au-delà de la revendication...
Sourd ou ferme ?
Mais au-delà de la revendication du pouvoir d'achat, il y a quand même une demande des Français...
Il faut y aller de deux façons, hein.
Non mais, je suis finie. Il y a une demande des Français d'être pris en compte. Et c'est pas que des mesures techniques que les Français demandent, c'est une réponse, c'est qu'on leur explique aussi vers quelle France on les emmène, quel est le projet de société, et c'est ça qu'ils attendent aussi, donc c'est beaucoup plus large.
Ces gens se sentent oubliés en fait.
Emmanuel,
je voudrais juste faire un flashback.
Oui.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a des gens qui ont voté pour la première fois, énormément, parce que ces gens se sont sentis oubliés pendant 20, 30, 40 ans, alors, et finalement ont voté Trump. Si on continue de nier une partie de la population française, une partie de la population européenne, ne vous étonnez pas des prochaines élections.
Et vous venez d'introduire le sujet suivant, mais tout d'abord 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénech.
Carlos Ghosn va-t-il être démis de ses fonctions de PDG du groupe Renault ? Le conseil d'administration du constructeur automobile se réunit en ce moment même sur ce dossier. Plus tôt dans la journée, France et Japon ont fait connaître leur soutien quant à l'alliance entre Renault et Nissan. Une déclaration alors que Carlos Ghosn est en garde à vue pour des soupçons de fraude fiscale au Japon. En parallèle des actions de grogne des Gilets jaunes, 12 personnes se présentant comme des lycéens ont été interpellées aujourd'hui à Perpignan pour outrage sur les forces de l'ordre. Ce matin, environ 400 jeunes ont bloqué leur lycée Arago à l'aide de poubelles enflammées. Les policiers les ont délogés en utilisant gaz lacrymogène et flashball sans faire de blessés. Près de 4 ans après les attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo, Montrouge et à l'Hypercacher, l'enquête est désormais terminée. Les juges d'instruction ont bouclé leur dossier et un procès va pouvoir se tenir en 2020 selon les informations de nos confrères de France Inter. 14 personnes sont mises en examen, 3 mandats d'arrêt sont délivrés contre des suspects de l'État islamique partis combattre en zone irako-syrienne. C'est l'une des attaques les plus meurtrières de l'année en Afghanistan. Un attentat suicide a fait aujourd'hui à Kaboul au moins 43 morts, 83 blessés. Il s'est déroulé lors d'un rassemblement religieux. Les participants célébraient la naissance du prophète Mahomet quand un kamikaze s'est fait exploser. En football, dernier match de l'année pour l'équipe de France, il est amical et face à l'Uruguay. Le coup d'envoi, c'est à 21h au Stade de France.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le débat s'est poursuivi à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a interpellé aujourd'hui Édouard Philippe sur les déblocages lors des séances de questions au gouvernement. Voici l'échange, la réponse du Premier ministre.
Nous irons, je vous le dis, les insoumis iront dans ces manifestations. Alors, monsieur le Premier ministre, permettez que la démocratie sociale et la démocratie parlementaire se retrouvent. Permettez la manifestation.
Il n'est pas juste non plus, monsieur le Président Mélenchon, d'interdire aux Français de se déplacer quand ils souhaitent le faire. Il n'est pas juste non plus, monsieur le Président Mélenchon, d'imposer à des gens qui veulent franchir un rond-point de porter un gilet jaune. Il n'est pas juste non plus, monsieur le Président Mélenchon, de faire en sorte de bloquer un certain nombre de zones commerciales ou de centres-villes. Ça n'est pas juste non plus.
Voilà Édouard Philippe qui donc justifie la position de fermeté du gouvernement. Et Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose d'assez intéressant au début de son intervention. Il dit que les insoumis iront dans les manifs. Or, on sait que la mobilisation est partie de la base. Hein. Les formations politiques tentent de monter à bord du train. Le mouvement est fondé sur une contestation sur les hausses des taxes sur les carburants. Hélène Hamel, est-ce qu'il est en train de muter vers une sorte de contestation plus globale anti-système?
On peut effectivement dire que c'est une contestation anti-système. Ce qui est sûr, c'est que ce mouvement, il est vraiment inédit. Aujourd'hui, ce n'est qu'1% de la population, mais soutenu par 3/4 des Français. C'est un mouvement qui est très médiatisé. Quand même, le problème aujourd'hui, c'est la radicalisation dont on a parlé tout à l'heure. Et effectivement, cette violence qui inquiète, les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Est-ce que des dirigeants politiques de la France insoumise ont intérêt à aller à s'afficher alors qu'on voit que l'image quand même du mouvement est en train de se dégrader? On peut vraiment se poser la question.
Marion Mourgue, est-ce que cela ne rappelle pas un petit peu ce qu'on a connu il y a près de 10 ans en Italie? Tout à l'heure, Emmanuel Foulon a évoqué la chose avec les États-Unis, mais vous savez, Beppe Grillo, le mouvement 5 étoiles, au fond, c'était ni droite ni gauche, il n'y avait pas de parti politique derrière, ça démarrait comme ça.
On verra justement peut-être au moment des européennes si ce mouvement se transforme dans les urnes ou... En tout cas, ce qu'on voit, c'est un mouvement de colère qui balaye tout. On l'a vu aussi à la présidentielle où on a eu un mouvement de... pour balayer la classe politique et la renouveler. Est-ce que ce mouvement n'est pas en train de passer au-delà de la classe politique? Ça va être la question si ce mouvement perdure. Et on verra, parce que Emmanuel Macron avait réussi à répondre à cette volonté de renouvellement et à calmer un peu la colère qu'on avait déjà entendue pendant la présidentielle. Aujourd'hui, ce qui semble nouveau, c'est que Emmanuel Macron soit aussi rapidement contesté et on a l'impression qu'il n'arrivera pas à reprendre la main. Donc il faut voir comment perdure ce mouvement ou pas.
Thomas Claes, est-ce que nous sommes face à une sorte de mouvement 5 étoiles qui ne dirait pas son nom?
Il manque le comique, parce que Beppe Grillo était un comique à l'origine en Italie. Et là, on rigole pas. D'ailleurs, ce que dit le Premier ministre, et le juriste que je suis ne peut y être que sensible, moi je suis par nature réfractaire au coup de force, ou disons à la voie de fait, quand on empêche les gens de circuler, quand on empêche les gens d'aller travailler. Par nature, je trouve que le combat... manque son objectif, parce que ça veut dire qu'il manque de conviction. J'appartiens à une université qui a été occupée pendant 2 mois et demi l'année dernière par 50 étudiants, entre guillemets étudiants, parce que à mon avis ils étaient à 90% non-étudiants, qui ont gêné 43 000 étudiants qui voulaient aller travailler. Bon, donc la minorité qui empêche la majorité de travailler, c'est un problème. Qu'est-ce qui va se passer ici? Moi, je ne crois pas du tout à la structuration politique d'un mouvement. Peut-être, effectivement,
ça peut s'exprimer soit par la
s'exprimer dans les partis protestataires. Oui. Je ne crois pas qu'on aura une liste gilet jaune aux européennes.
Donc, une liste LGJ, c'est ça. Oui.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, dans les partis politiques traditionnels, il y a quand même une sorte de valse hésitation à l'idée de récupérer le mouvement. À part Laurent Wauquiez qui court pieds et poings liés, comme d'habitude, après l'extrême droite ou après le mouvement disons poujadiste. Mais on voit bien que la France insoumise n'est pas très à l'aise avec le mouvement non plus, n'est pas en train de... n'est pas familière de cette récupération. Et donc, il y a une protestation qu'on essaye de plaquer, mais la récupération du mouvement, elle n'est pas, si j'ose dire, en marche.
Oui, elle est très compliquée. Effectivement, Emmanuel Foulon, est-ce que par-delà le mouvement des Gilets jaunes, hein, est-ce qu'il y a, selon vous, c'est ce que vous aviez commencé à amorcer tout à l'heure dans votre réflexion, une forme de parti sans parti qui se dessine? Et au fond, il faut quand même rappeler que la Ligue et le mouvement 5 étoiles, eh bien aujourd'hui, occupent le pouvoir en Italie.
Oui, d'ailleurs, je pense que parmi les Gilets jaunes, il y a pas mal de gens qui sont des abstentionnistes, mais des abstentionnistes actifs. C'est-à-dire des gens qui ont refusé d'aller voter au second tour, et certains même au premier tour aussi. Donc, ce n'est pas un parti. Finalement, ces gens font de la politique, mais sans politique. Vous voyez, sans hommes politiques, sans femmes politiques. Et c'est aussi le résultat. Pourquoi ça sort ici maintenant sous Macron? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était déjà dans les souterrains depuis quelques années. Il y a aussi la suppression des corps intermédiaires. Vous avez un Emmanuel Macron qui a siphonné la droite et la gauche pendant la campagne électorale et qui a déterminé que son opposant politique était Marine Le Pen et puis Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Donc plus de corps intermédiaires au niveau politique, plus de corps intermédiaires non plus pour les syndicats. Ici, le pouvoir d'achat, on n'arrête pas de parler du pouvoir d'achat, en théorie, c'est le cheval de bataille des syndicats. Les syndicats ont été largement contaminés et exterminés, entre autres avec la réforme de la SNCF. Donc, fatalement, si vous n'avez pas de corps intermédiaire, le clash est beaucoup plus violent parce que vous n'avez plus aucun filtre et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Allez, 20h et bientôt 28 minutes. On se retrouve dans un instant après le rappel de l'info. Nous évoquerons notamment le sort de Carlos Ghosn à la tête de Renault. À tout à l'heure.
Pour moi, le VIE est signe de réussite. Je dirige la branche Asie d'une marque d'artisanat français de luxe et j'ai choisi Samia en VIE au poste de responsable marketing, qui n'est pas pour rien dans nos derniers chiffres.
Merci. Oui, après mon école de commerce, je voulais faire mes preuves. Et c'est super car... Pas maintenant, je suis en interview.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Avec Business France, sourcez vos futurs collaborateurs pour votre développement à l'étranger. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
France Info Météo, avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo avec les prévisions signées Élodie Calac pour Météo France.
Encore des pluies sur le sud-est. Ce soir et demain, les pluies resteront soutenues, parfois orageuses, entre le Languedoc, le sud des Alpes et la Corse. Elles s'atténueront en fin de journée de demain. Ailleurs, la matinée sera grise avec des brouillards givrants possibles, quelques pluies, mais aussi de très belles éclaircies du golfe du Morbihan vers les Charentes, le Limousin. Elles gagneront tout l'ouest l'après-midi, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, à la région parisienne, à la Touraine et au sud-ouest. Plus à l'est, les éclaircies seront discrètes. Les gelées seront très nombreuses le matin, mais il fera encore 5 à 11 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, 3 degrés à Amiens, Alençon, Mulhouse, 4 à Paris, 8 degrés à Vannes, Limoges et Lyon, 12 à Toulouse, 15 à Marseille et 18 à Ajaccio.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. Direction tout de suite le Stade de France pour enfiler des gilets bleus. Les bleus de Didier Deschamps qui vont disputer leur dernier match de l'année. On va suivre cette rencontre sur France Info avec vous. Sébastien Hazard, bonsoir.
Bonsoir.
Match amical donc contre l'Uruguay pour finir l'année sur une bonne note, même si on leur en voudra pas, ils ont quand même été champions du monde cet été, non ?
L'année est belle, l'année 2018 est belle, mais pour se terminer d'une meilleure manière que la semaine dernière avec cette défaite face aux Pays-Bas, il faudrait une belle prestation ce soir face à l'Uruguay. Vous parliez des joueurs, ils sont actuellement sur le terrain en survêtement bleu effectivement, et puis il y a quelques petites surprises, quelques petites nouveautés par rapport à l'équipe de France qui va débuter d'ici une petite heure, une petite demi-heure plutôt maintenant. Hugo Lloris, le capitaine, est bien sûr dans les buts. Ça fait 10 ans qu'il a fêté sa première sélection. C'était le 19 novembre. Là, on est le 20. C'est un anniversaire un petit peu particulier. On espère pour lui qu'il sera aussi bon que face aux Pays-Bas la semaine dernière. La charnière centrale, un petit peu nouvelle. Mamadou Sakho avec Adil Rami. Mamadou Sakho qui n'a plus joué en équipe de France depuis mars 2016. Sur les côtés, Ferland Mendy. Alors lui, c'est sa grande première sur le côté gauche. Et puis Benjamin Pavard sur le côté droit. La récupération du ballon, Kanté et Ndombele. Et puis devant, le quatuor d'attaque qui ne change pas beaucoup. Lui, en revanche, Matuidi, Mbappé sur les côtés. Et puis dans l'axe, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. On espère que ça sera tout simplement une très belle prestation de l'équipe de France.
Eh bien, on espère et on vous retrouvera tout à l'heure. Coup d'envoi du match à 21h. Merci Sébastien Hazard. À l'exception de la Réunion où un couvre-feu est instauré, la tendance est plutôt au déblocage de gré ou de force des différents points de blocage au quatrième jour de la mobilisation des Gilets jaunes. La Fédération FO des Transports et de la Logistique a appelé aujourd'hui ses adhérents et sympathisants à rejoindre le mouvement. Pendant ce temps, l'exécutif est offensif à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le gouvernement a accusé accusé l'opposition d'attiser la colère à des fins politiques. En visite officielle en Belgique, Emmanuel Macron a lui prôné le dialogue et l'explication. Si les Gilets jaunes veulent de nouveau manifester à Paris samedi, ils devront déclarer leur action à la préfecture de police, mais certains lieux de la capitale, comme la place de la Concorde, leur seront interdits. C'est ce que vient de dire ce soir le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez. Des messages diffusés sur les réseaux sociaux par les Gilets jaunes appelés à un rassemblement sur ce lieu symbolique parisien pour samedi prochain. Les infirmières étaient dans la rue aujourd'hui un peu partout en France pour dénoncer le manque de moyens humains et financiers et le mépris, selon eux, du gouvernement à l'égard de leur profession. Une délégation de manifestants a été reçue au ministère. Et puis le conseil d'administration extraordinaire de Renault se réunit en ce moment pour sans doute lâcher son PDG, toujours en garde à vue au Japon pour des soupçons de malversation. Les rênes devraient être confiées à l'administrateur Philippe Lagayette et au numéro 2 du groupe Thierry Bolloré. 20h33, la suite des informés sur France Info. Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro, avec Hélène Hamel, associée de l'agence Plid, spécialisée dans le conseil en communication stratégique, avec Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne Université Paris 1, et Emmanuel Foulon, porte-parole de la délégation socialiste belge au Parlement européen et expert en communication et stratégie politique. Alors Carlos Ghosn, toujours en garde à vue au Japon sur des soupçons de malversation, va-t-il être écarté de la présidence de Renault après celle de Nissan? La firme aux losanges réunissait ce soir son conseil d'administration. Ils sont toujours en cours pour discuter de l'éventuel remplacement de son PDG. Bruno Le Maire, sur France Info ce matin, avait évoqué son cas avec, vous allez entendre, quelques précautions d'usage.
Notre priorité, comme l'a rappelé le président de la République, c'est la stabilité de Renault et la stabilité de l'alliance entre Renault et Nissan. Il faut que se mette en place le plus vite possible une direction intérimaire.
Pour vous, Carlos Ghosn n'est plus en état aujourd'hui de diriger le groupe?
Non, il est de fait plus en état de diriger le groupe. En revanche, nous n'allons pas demander le départ formel de M. Ghosn au conseil d'administration pour une raison qui est simple. Nous n'avons pas de preuves. Et nous sommes dans un état de droit.
Alors, pour bien comprendre ce qui a été dit, Thomas Clay, il y a la présomption d'innocence, dit le ministre de l'économie, mais il ne peut plus diriger en même temps le groupe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans?
C'est compliqué quand on est dans une cellule au Japon. Je rappelle qu'une garde à vue au Japon peut durer jusqu'à 22 jours. Donc, ça n'a rien à voir avec le système français. On n'a pas d'avocat et on ne peut parler avec sa famille qu'en japonais. Donc les droits de la défense au Japon ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Alors cela dit, je crois que le ministre a raison d'être prudent parce que, d'abord, il est présumé innocent, bien sûr, et ensuite, cette affaire est tellement invraisemblable, ça fait quand même des années qu'on parle des rémunérations stratosphériques et, disons-le, obscènes de Carlos Ghosn, chaque année 15 millions d'euros, enfin, qu'est-ce qui justifie...
Ce qui est en jeu, vraisemblablement, de ce que l'on en sait, Thomas, ce n'est pas le montant des rémunérations.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'était une personnalité exposée sur ces questions financières. On parle aujourd'hui d'une dissimulation de ses revenus au Japon de la moitié sur la période 2010-2015, c'est-à-dire 39 millions d'euros. De revenus sur cette période-là. Ce sont des montants énormes. Comment une personnalité aussi exposée a pu... Et c'est pour ça que moi j'ai du mal à croire cette histoire. Mais si elle est vraie, alors elle est inacceptable. Elle est inadmissible. Et évidemment, Carlos Ghosn, qui nous a empoisonné le débat politique et le débat économique, qui s'est successivement embrouillé avec tout le monde, avec son bras droit, Patrick Pellata, qu'il a sacrifié au moment, notamment, de l'histoire de l'espionnage bidon. Oui. Il est venu au journal Le 20h pour sacrifier son bras droit, avec le directeur de l'Agence des participations de l'État, Régis Turini, qui voulait simplement réduire un peu la rémunération de M. Ghosn, etc., etc. Eh bien, si cette histoire est vraie, Carlos Ghosn ne mérite... Que le sort qui lui arrive. Voilà.
Et Hélène Hamel, c'est le Financial Times qui évoque le fait que Ghosn préparait une fusion Nissan-Renault juste avant cette arrestation. Vous pensez qu'il peut y avoir une autre vérité derrière?
Bah, cette annonce ce soir du Financial Times, elle est quand même très intéressante. Lundi, on a tous été sous le choc et pris de court par cette annonce. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des malversations. On connaît effectivement les polémiques autour du salaire de M. Ghosn, mais là, on ne parle pas de polémique de salaire, on parle peut-être de malversations. Donc, ce qui est très grave, dans un premier temps...
Le fraude fiscale,
oui. Pour être plus précise. Mais ce qui est... en fait, quand on regarde cette communication de lundi, la façon dont elle a été orchestrée par Nissan, oui, on peut se poser des questions parce que quand on est un communicant, on peut se dire c'est une communication de crise très réussie et dans un deuxième temps, se dire elle est quand même très orchestrée, rien n'est laissé au hasard, le communiqué de presse, le conseil d'administration jeudi, l'enquête interne, le fait qu'ils aillent dans le sens des pouvoirs publics japonais, on peut se poser des questions de savoir si vraiment c'est une bonne communication de crise ou c'était quelque chose de préparé pour faire sortir M. Ghosn.
Marion Mourgue, l'exécutif prend la chose évidemment très au sérieux. Le groupe est numéro un mondial, du moins l'alliance des trois marques, et il s'agit d'un grand patron français notamment. Au fond, est-ce que ça ne va pas un petit peu trop vite tout ça ?
En tout cas, on voit que la réaction immédiate du ministre de l'économie Bruno Le Maire montre qu'il y a une inquiétude et qu'il y a une volonté d'être présent tout de suite et pour le coup assez ferme en disant si c'est vérifié, c'est inacceptable. Je pense que pour l'instant, ils n'ont pas d'autres informations et que donc ils attendent. Mais il faut en tout cas envoyer un message de dire c'est pas possible, ce type de pratique n'est pas possible.
Ouais, Emmanuel Foulon, au niveau européen, j'imagine que cette arrestation aussi provoque des remous.
Alors bien sûr, mais si les premiers de cordée finissent par couper la corde en dessous d'eux, où est-ce qu'on va, sincèrement ? Un homme qui gagne 15 millions d'euros, qui est suspecté d'avoir fait de la fraude fiscale, qui est suspecté d'avoir détourné des biens de son entreprise à des fins impersonnelles, enfin, le symbole est ravageur. Après, vous disiez que le problème n'était pas son salaire, mais une des choses quand même qui restera, nonobstant la suite judiciaire, c'est évidemment le poids de son salaire. Moi, je comprends que les grands patrons, ils gagnent énormément d'argent.
Mais 15 millions d'euros, voilà.
Mais à ce point, justement, c'est la question. Parce que je me souviens, Henry Ford, enfin, j'étais pas né, hein, mais Henry Ford avait dit, il faut que l'écart de salaire maximal aille de 1 à 40 dans la même entreprise. En France, on va de 1 à 130. Alors, évidemment qu'après, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ne peuvent plus accepter le système dans lequel on est. Je ne vais pas revenir avec l'histoire des gilets jaunes, mais si, évidemment. Il y a il y a de nouveau deux Frances. Il y a une France des élites et puis il y a les autres.
Hélène Hamel, c'est encore une fois de plus le problème du salaire des dirigeants qui est sur la table au travers de cette histoire. On n'en parle pas encore parce qu'il y a toujours le sort de M. Ghosn qui est toujours en cours, mais c'est peut-être le cran d'après, si je puis dire.
Non, mais ce qui a été effectivement évoqué dans la communication, c'est cette résonance avec la question des salaires des grands patrons. D'ailleurs, la France Insoumise a tout de suite pris la parole avec Alexis Corbière qui a rappelé ce rapport qu'eux voudraient de 1 à 20. Donc évidemment, il y a déjà eu une récupération. Je pense que le sujet n'est pas encore développé et qu'on va l'avoir dans les jours qui viennent. Et par ailleurs, évidemment, c'est rentré en résonance avec les gilets jaunes parce qu'on a ce problème de la fraude fiscale versus le ras-le-bol fiscal.
Oui. Et je rappelle qu'une gouvernance intérimaire, celle dont parle Bruno Le Maire, pourrait se traduire par des pouvoirs renforcés pour Thierry Bolloré, qui est l'actuel directeur général adjoint du groupe. On va poursuivre dans un instant sur, au fond, ce que provoque cette arrestation de Carlos Ghosn. Mais tout d'abord, 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le secrétaire d'État à l'intérieur prévient ce soir oui à une nouvelle manifestation des Gilets jaunes samedi, mais à condition qu'elle soit déclarée en préfecture et ne passe pas par la place de la Concorde. Le passage de manifestants, ce lieu emblématique de la capitale, est impossible, précise Laurent Nunez. Le mouvement des Gilets jaunes à La Réunion et les violences qui l'accompagnent font réagir la ministre des Outre-mer. Annick Girardin parle d'une évolution intolérable. Ce soir, une grande surface a été pillée, des voitures incendiées dans le quartier populaire du Chaudron à Saint-Denis. Le préfet fait instaurer sur l'île un couvre-feu partiel, au moins jusqu'à vendredi, avec interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin. La République En Marche prend acte et s'engage à fournir les documents nécessaires à la justice. Réaction ce soir du parti après l'enquête préliminaire ouverte aujourd'hui par le parquet de Paris à la suite de dons perçus l'an dernier d'un montant de 144 000 euros. Une somme dont la Commission nationale des comptes de campagne n'a pas réussi à trouver la provenance. La première ministre britannique Theresa May sera demain à Bruxelles. Elle y rencontre le président de la Commission européenne. Au menu de cette entrevue, les relations post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe doit intervenir en mars 2019.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
L'alliance des trois marques, Renault, Nissan, Mitsubishi, est-elle menacée? Le groupe à trois, cela représente à peu près 500 000 salariés dans le monde entier, 47 000 en France. Voici le témoignage de salariés recueillis, au sortir de l'usine Renault de Flins, écœurés bien sûr.
Ça m'a choqué. J'ai dit, normalement, il ne devait pas être ça. Une grande entreprise comme ça.
C'est révoltant un peu. Parce que nous, on se bat tous les jours pour réaliser donc nos projets, tout ça. On essaie de se démerder. On voit que ces gens-là, tout riches, ils cachent une partie de leurs bénéfices. Alors que nous, si on fait ça, on est complètement dans la merde, quoi.
Nous, on est là, on bosse 8 heures par jour et on déclare tout ce qu'on fait. Faut qu'ils payent, c'est tout, c'est comme ça. C'est le jeu, comme on dit.
Marion Mourgue, voilà, l'onde de choc qui est déjà là, hein. Celle de l'opinion. Hein.
Oui, mais ça rejoint ce que disait Emmanuel Foulon tout à l'heure, c'est que c'est très difficile à faire accepter à des salariés d'avoir l'impression que les grands patrons n'ont pas les mêmes règles que ceux auxquels ils sont soumises. Donc là, en effet, l'onde de choc, elle va être de plus en plus forte, surtout si les révélations se poursuivent.
Hélène Hamel, cela confirmait ce que vous disiez tout à l'heure, cela rejoint finalement les problématiques collectives du moment.
Là, les remarques qu'on vient d'entendre des gens que vous avez filmés rejoignent vraiment ce qu'on peut entendre des gilets jaunes quand on les interviewe. Donc effectivement, il va y avoir un lien qui va être fait directement entre cette fraude fiscale de ce grand patron et le ras-le-bol fiscal porté par tous ces gilets jaunes.
Pas tout à fait d'accord, Thomas Clay.
Je pense que le raccourci va être fait en tout cas par les médias.
Je ne suis pas d'accord avec Hélène Hamel, donc oui, par principe. mais non, ce que je pense que ces témoignages sont absolument poignants, mais je voudrais qu'on revienne, parce que je crois qu'on ne peut pas faire le lien entre le salaire et la fraude. C'est la même indécence, à supposer qu'elle soit établie, la fraude. Hein. Encore une fois, il faut être évidemment extrêmement prudent. Mais un salaire de 15 millions par an, c'est indécent, c'est obscène. C'est une telle démesure qu'on en perd le sens des réalités. Et on a l'impression qu'il en faut toujours plus. C'est-à-dire, même 15 millions, ça lui suffit pas. Il faut en plus, effectivement, faire payer jusqu'à 100 000 euros par an par son entreprise des dépenses personnelles. Est-ce qu'avec 15 millions de revenus, on peut pas prendre à sa charge 100 000 euros de dépenses personnelles? Avec 15 millions de revenus, on est obligé de frauder? Même... À condition, encore une fois, ouais. Je veux être prudent parce que j'ai commencé mon intervention tout à l'heure pour les auditeurs qui étaient déjà là et qui sont restés.
Un juriste.
Effectivement, une extrême prudence par rapport à ce qui se passe. On n'a pas la version de Carlos Ghosn. Il faudra attendre la version de Carlos Ghosn. Mais si ces faits sont avérés, je crois que c'est la démonstration d'une forme d'indécence multiple, c'est-à-dire d'indécence dans le salaire, d'indécence dans la déclaration. Avec 15 millions, ça suffit toujours pas, mais où faut-il aller? Et ces gens ont raison, ils ont raison. L'écart de salaire est délirant. Et pour mémoire, parce que ça a été rappelé à propos de la France Insoumise, je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelques années, tout le monde l'a oublié, que le député Arnaud Montebourg avait porté une proposition de loi qui était justement qu'un écart maximum de salaire soit entre 1 et 20 dans la même entreprise, ce qu'on aurait pu attendre au moins des entreprises publiques ou, disons, contrôlées par les pouvoirs publics. Ça n'a pas été retenu par les socialistes.
Marion Mourgue, c'est un débat qui n'arrive jamais à aboutir en France, malgré des codes de bonne conduite, notamment la FEBMEDEF qui a essayé peut-être de limiter les choses, mais c'est toujours au fond de l'incitatif, c'est jamais contraignant finalement.
C'est vrai que c'est un débat qui est récurrent, mais qui à la limite ne peut bouger que quand il y a un mouvement de l'opinion publique. Et ce type d'affaires fait évidemment bouger l'opinion publique, surtout dans le contexte actuel, on en a parlé. Donc là, peut-être que ça fera avancer la nouvelle majorité pour aller jusqu'au bout. Mais jusqu'à présent,
c'est pas un esprit très libéral. La majorité est quand même très libérale. C'est pas à elle qui va limiter probablement les hauts salaires. C'est pas dans sa logique.
Non, mais il me semble qu'elle est sensible en ce moment au mouvement d'opinion, surtout à 6 mois des
de couleur
élections
jaune.
Et à d'autres élections qui arrivent et qui sont un peu plus compliquées en ce moment.
Mais moi, je ne ferai vraiment pas le lien, entre fraude et le montant du salaire. On peut considérer et juger que le salaire de Carlos Ghosn est indécent. Peut-être que ça l'a mis sur la route de la fraude parce qu'il en voulait toujours plus et qu'il y a une forme d'hubrise dans son comportement. Mais je pense qu'on ne peut pas mélanger les deux sujets.
Alors Hélène Hamel, vous faisiez le lien à l'instant avec l'actualité des gilets jaunes, avec au fond aussi le pouvoir d'achat et toutes les préoccupations des Français immédiates, réelles. Il n'y a pas que les hausses des prix de l'essence qui fâchent, mais cette France déclassée, on l'a dit et redit, qui travaille, s'inquiète pour son pouvoir d'achat, l'avenir de ses enfants, l'emploi avec un chômage qui reste malgré tout figé au-dessus de 9%, et surtout il y a le ras-le-bol fiscal. Il fait l'objet de deux enquêtes très intéressantes qui ont été publiées ce matin par deux de nos confrères. 45% des Français jugent les hausses d'impôts comme une de leurs préoccupations premières selon Opinionway dans les échos. 57% des patrons constatent une hausse de la fiscalité locale et pas l'inverse. Selon une autre enquête, celle du syndicat des indépendants, c'était dans l'opinion. Édouard Philippe a été interpellé sur le sujet aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Nous allons faire ce sur quoi nous nous sommes engagés. Faire basculer progressivement et résolument la fiscalité qui pesait sur le travail vers une fiscalité qui pesera un peu plus, c'est vrai, sur les carburants et sur le carbone. C'est quelque chose sur lequel nous nous sommes engagés, c'est quelque chose que nous assumons et c'est quelque chose que nous savons nécessaire, mais qui, pour être accepté, doit être accompagné. Et voilà notre axe, voilà notre politique, voilà la politique que nous proposons aux Français, voilà la politique que nous allons mettre en œuvre.
Alors l'acceptation de l'impôt est toujours un chemin difficile. Emmanuel Foulon, ça vous surprend que le ras-le-bol fiscal devienne quasiment l'une des principales préoccupations des Français?
Pas du tout. Alors vraiment, pas du tout. Mais c'est pas tant la montée de la taxe des carburants, je pense, qui contribue au malaise global. C'est plutôt le fait que les gens, les citoyens se sentent toujours, ils ont toujours l'impression que c'est dans leur portefeuille qu'on va taper et pas nécessairement dans celle des multinationales, dans celle des gens, des dirigeants, dans celle de ceux qui ont de l'argent. Et c'est là, de nouveau, que vous obtenez une fracture de la civilisation et de la société. Après, je ne veux pas dire que les impôts, c'est mal, hein, parce que ça aussi, j'ai entendu beaucoup. C'est faux. Enfin, moi, j'ai un ami qui s'est fait opérer une tumeur au cerveau il n'y a pas longtemps.
Ça s'appelle la solidarité nationale.
Exactement.
Hein,
oui. Et mon ami qui a été opéré la tumeur au cerveau, si elle a pu, et elle s'en est sortie, si elle a pu ne pas devoir payer à l'hôpital, c'est précisément grâce aussi aux impôts, grâce aussi... Enfin, il y a des tas de choses qui font que l'intérêt général est sauvé par l'impôt. Le problème, c'est qu'un patron qui gagne 15 millions d'euros, on en a parlé juste avant, oui, fait de la fraude fiscale. À côté, tu as quelqu'un qui gagne 15 000 euros par an et le salaire est taxé à 50%. Donc, bien sûr...
Et à la source.
Et à la source, et, oui, c'est vrai. Réflexion et donc, évidemment que le ressenti est important. Une dernière chose, et je vais revenir avec l'histoire de Renault, c'est qu'on a quelqu'un qui, finalement, fait probablement la fraude fiscale, en tout cas, on verra si c'est avéré, mais qui pourrait faire de la fraude fiscale, et finalement quoi? Qui privilégie son intérêt particulier par rapport à l'intérêt général. Et au dépens de qui? Au dépens des Français qui ont besoin de cet argent pour les collectivités, pour l'intérêt général, comme je viens de le dire, et aussi au dépens de ses employés, parce que ça pourrait faire énormément de tort à Renault, et ça, c'est vraiment scandaleux.
Mais là, oui, Marion Mourgue.
Pardon. Non, juste très rapidement, mais je trouve qu'on oublie totalement le bilan de Carlos Ghosn à la tête de ces trois entreprises, et ça, c'est quand même... Enfin, qu'on critique le
vous
montant
dire
de son salaire...
C'est une grande réussite industrielle mondiale.
Bah oui, c'est une grande réussite, et pour Renault, c'est une grande réussite.
À quel prix?
Il a cassé la cohésion sociale.
Le salaire de Carlos Ghosn, il était sur les licenciements.
En même temps. Oui.
C'est à quel tour d'être en désaccord.
Non, je pense que par contre, je pense que la fraude fiscale est quelque chose qui est vraiment très dommageable pour la réputation de l'entreprise et pour sa réputation à lui. En revanche, le montant de son salaire, tout le monde le connaissait. On peut juger que c'est pas bien et je vous rejoins sur ce point. En revanche, le travail qui a été effectué depuis des années par Monsieur Ghosn, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Renault, ça va beaucoup mieux et c'est en partie grâce à lui.
C'est pas ce que dit Monsieur Hiroto Saikawa aujourd'hui, lui, le nouveau patron de Nissan. Ça, qui considère qu'effectivement, les mérites ne reviennent pas seulement à Carlos Ghosn, qui était plutôt un manipulateur, c'est ce qui a été dit aujourd'hui.
Mais c'est facile.
En tous les cas, nous attendons avec une certaine impatience la décision qui sortira ce soir du conseil d'administration de Renault réuni, donc pour décider du sort de Carlos Ghosn. 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le conseil d'administration de Renault se réunit depuis un peu plus d'une heure maintenant au siège du constructeur automobile à Boulogne-Billancourt. Il doit statuer sur l'avenir de son patron Carlos Ghosn. Il devrait confier les rênes de Renault au tandem intérimaire Philippe Lagayette et Thierry Bolloré, numéro 2 du groupe. En marge de la mobilisation des Gilets jaunes, un motard de 37 ans est mort des suites de ses blessures cet après-midi dans la Drôme. Hier matin, au niveau d'un blocage filtrant à Porte-les-Valences, il avait remonté une file de voitures par la gauche avant d'être percuté par une camionnette. Une pollution aux hydrocarbures détectée sur la Côte Vermeille dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs lieux en emblématiques du département se retrouvent ce soir souillés dans les plages de la réserve naturelle marine de Banyuls-Cerbère. On ne sait pas encore précisément si cette pollution provient de la collision entre deux bateaux le 7 octobre dernier au large de la Corse. En football, malgré l'élimination des Bleus en Ligue des Nations, l'équipe de France rechausse les crampons ce soir pour un match amical face à l'Uruguay, le dernier de l'année. Coup d'envoi de ce duel dans une dizaine de minutes maintenant.
France Info.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Alors le président Emmanuel Macron est allé souffler un petit peu en Belgique, enfin pas exactement, visite d'État de 2 jours et débat notamment en compagnie du premier ministre belge Charles Michel avec quelques 800 étudiants à l'université de Louvain-la-Neuve. Le chef de l'État a d'ailleurs été rattrapé par l'actualité nationale française des Gilets jaunes.
La stratégie a été votée au début du quinquennat de manière très transparente et nous mettons en œuvre celle-ci avec, contrairement à ce que vous avez dit, des vraies mesures d'accompagnement pour les personnes plus modestes, mais ça suppose de changer les habitudes, ça n'est jamais aisé. Le gouvernement est aujourd'hui en effet confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain.
Marion Mourgue, c'est un espace plutôt favorable pour le chef de l'État pour essayer d'expliquer, au fond, la politique que le gouvernement essaie de mise en œuvre avec une certaine forme d'incompréhension collective aujourd'hui.
Oui, sauf qu'il est en Belgique et que le débat et que les attentes des réponses...
Il répond à des questions qui lui sont posées par les étudiants.
Oui, mais... Alors bien sûr, il ne maîtrise pas l'agenda international et les déplacements, mais il y a quand même une sorte de bizarrerie que tout ça se passe en Belgique alors que les réponses... les questions sont en France et que les demandes de réponses sont aussi en France. Et que même le déplacement avec un roi et une reine au moment où les Français demandent juste à boucler leur fin de mois, il y a le choc des images et c'est un peu compliqué. Donc, il est bon dans cet exercice, il est toujours bon en stand-up et au milieu de la foule, il aime ça, ça lui rappelle la campagne. Mais là, ça tombe un peu au mauvais moment.
Hélène Hamel, en termes de communication, il y a un agenda présidentiel. Après tout, c'est le rôle du chef de l'État aussi d'honorer des visites d'État.
Oui, et puis depuis le début de l'opération Gilets jaunes, c'est vrai qu'on ne l'avait pas entendu. Donc je pense qu'il y avait aussi la volonté de dire un mot. Alors cette question était sollicitée par des étudiants. Je trouve qu'il était à sa place et il a rappelé ce que fait le gouvernement. Il a rappelé son projet. Édouard Philippe est déjà monté au créneau. Christophe Castaner, enfin, le gouvernement est présent.
Les députés attendent une intervention. C'est vrai que depuis 15 jours, on a eu une multiplication d'interviews. Et au moment où là, les gens attendent justement de l'entendre,
mais c'est peut-être qu'il prendra la parole. Moi, je pense qu'il va prendre la parole à son retour. Est-ce que, en Belgique, dans ce cadre-là, face à des étudiants, il pouvait avoir une prise de position sur les Gilets jaunes qui aille plus loin que ce qu'il a dit là? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que c'est favorable.
Thomas Clé, sur cet aspect des choses, l'extraterritorialité, au fond, des idées.
Avec la Belgique, c'est pas non plus le pays le plus exotique, hein. Faut pas.
On est la France du Nord. On est la France du Nord.
D'abord, moi, je suis toujours content quand un président de la République va dans une université. L'université de Louvain-la-Neuve est une grande université belge. Je parle sous le contrôle de notre ami belge. Maintenant, sur la communication, il y a un agenda présidentiel. La semaine dernière, sur ce même plateau, certains journalistes disaient, on n'en peut plus de l'immersion dans l'itinérance mémorable. Il était au cœur des régions françaises, on n'en peut plus qu'il sorte. Alors maintenant, il sort, il faudrait qu'il revienne. C'est pas facile, le job de président,
contestablement. Oui, mais ça, c'est le prix à payer quand on est à 30% d'opinion favorable. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez maintenant, c'est mauvais. Et effectivement, on avait demandé qu'il soit sur le terrain. Quand il était sur le terrain, ça n'allait pas. Il fallait qu'il soit autre part. Donc c'était un vrai problème. Après, pour prendre sa défense, effectivement, c'est pas lui qui est responsable de son calendrier. Il a été à l'UCL, il était à Louvain-la-Neuve. Voilà.
Alors gardez la main, Emmanuel Foulon, parce que le chef de l'État a parlé tout à fait d'autre chose. Il l'a évoqué, notamment le combat qui se dessine, celui des élections européennes, et il a défendu sa vision de l'Europe. Attention, a-t-il dit, à ne pas oublier qui est le principal adversaire lors d'une élection, sinon on se trompe. Et Emmanuel Macron a évoqué ce combat des nationalistes qu'il oppose aux progressistes. Il a d'ailleurs dit qu'il préférait le mot nationaliste à celui de populiste. Comment est-ce que vous interprétez les choses?
Il ne faut pas se tromper. Emmanuel Macron, depuis plusieurs jours, dans sa tournée européenne, il est en campagne électorale. Aujourd'hui, il a échangé avec Louis Michel, qui est un allié libéral, avec lequel il compte effectivement forger ce nouveau parti ALDE plutôt en marche pour les élections européennes. Donc il est vraiment en campagne électorale. Après, effectivement, ça tombe bien qu'il soit pas en France pour les Gilets jaunes, ça j'entends volontiers, mais en fait, il est toujours sur cette même stratégie, ce que je vous ai déjà expliqué. Je vous explique à peu près chaque semaine.
Mais allez-y. L'information, c'est la répétition.
Il fait chaque fois copier-coller de ce qu'il a fait pour les présidentielles. C'est-à-dire que, de nouveau, il a éliminé gauche et droite pour faire de son adversaire, c'était l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est exactement ce qu'il est en train de faire au niveau européen. Dans chacune de ses sorties, il parle systématiquement d'Orban, de Salvini, et c'est lui contre les extrémistes, c'est lui contre les populistes. Et donc, il organise le clivage, il organise la fracture dont je parlais en début d'émission, et il espère que ça va fonctionner. Le danger, c'est que le jour où ça ne fonctionnera pas, À ce moment-là, on aura probablement pas des gilets jaunes, mais on aura des citoyens européens qui vont dire on va punir tous ces gens-là et on ira vers les extrêmes.
En même temps, je suis parfaitement d'accord avec cette analyse, mais est-ce qu'il a le choix? Les démocrates, les sociaux-démocrates européens sont tous dans la difficulté. Vous prenez Theresa May, on n'en parle même pas, on ne sait pas si elle sera encore au pouvoir la semaine prochaine. Angela Merkel a déjà annoncé son départ. Pedro Sanchez, en Espagne, gouverne sans majorité. L'Italie, on voit dans quel état c'est. Elles sont où les alliances? Donc il est obligé de s'auto-investir du rôle de leader du monde libre, en quelque sorte, à l'encontre de ces nationalistes ou populistes qui sont incarnés par Salvini et Orban.
J'irai même plus loin, je suis d'accord avec vous, parce qu'au Parlement européen et dans les institutions européennes, il est attendu comme un messie. On sous-estime beaucoup ce rôle en France, mais vous pouvez parler à n'importe quel chef d'État, à n'importe quel député européen, peut-être pas tous, hein, mais une grande majorité en tout cas, ils espèrent un courant de vent frais, ils espèrent en fait de Macron au niveau européen, ce que beaucoup de citoyens français ont espéré de Macron pendant les présidentielles.
Rapidement, Hélène Hamel, c'est un président en campagne, il dit d'ailleurs dans mon pays, le premier parti européen, c'est le FN. Oui, a-t-il amélioré l'Europe? Je ne l'ai pas
c'est
vu.
C'est le Rassemblement National, mais effectivement, il dit FN.
Oui, c'est vrai.
J'ai noté ce point. En fait, je pense que quand il fait cette opposition entre progressistes et nationalistes, il s'adresse à son électorat et à nous. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire adhérer sur un projet comme ça que de raconter l'Europe. Donc je pense qu'en fait, ça ne s'adresse pas forcément aux pays européens, mais bien à son électorat ici, chez nous.
C'est le mot de la fin. Marion Mourgue, qu'y a-t-il à la une du Figaro demain?
Un grand dossier sur la laïcité et les inquiétudes autour de la remise en question de la loi 1905.
Allez, à lire demain matin en kiosque ou sur vos tablettes. Pour ma part, je vous remercie, Marion Mourgue. Hélène Hamel, merci à vous, Thomas Clé et Emmanuel Foulon, vous revenez. Hein.
Avec plaisir.
Vive la Belgique. Et pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Bonsoir.